Jeannette la Revenante. Robert Louis Stevenson. Le révérend Murdoch Soulis fut longtemps ministre de la paroisse de Bellwherry, dans la marécageuse vallée de la Dule. Vieillard à la mine sévère et glaciale, effrayant à entendre, il habitait les dernières années de sa vie sans parents, ni serviteurs, ni aucune autre compagnie humaine, dans le petit presbytère isolé que dominait le rocher de la femme pendue. Malgré la rigidité de fer de ses traits, il avait l'œil effrayé, égaré, hagard. Et lorsqu'il évoquait, dans une semonce privée, l'avenir des âmes impénitentes, on eût dit que son œil découvrait, au-delà des orages du temps, les terreurs de l'éternité. Bien des jeunes gens qui venaient se préparer à la Sainte Communion étaient affreusement bouleversés par ses propos. Il avait composé un prêche sur la première épître de Saint-Pierre, verset 8. « Le démon est un lion dévorant » pour le dimanche qui suit le 7 août. Et il se surpassait en commentant ce texte, tant à cause de la nature horrifique du sujet, que par le spectacle terrifiant qu'il offrait en chair. Les enfants étaient convulsés d'épouvante et les vieux prenaient ce jour-là des airs plus entendus et plus mystérieux que de coutume en multipliant ces allusions qui avaient la désapprobation d'Hamlet. Quant au presbytère proche de la Dule, sous de grands arbres dominés d'un côté par la femme pendue et ayant vu de l'autre sur des collines froides et marécageuses, il avait commencé très tôt, sous le ministère de M. Soulis, d'être évité dès la brume par ceux qui se targuaient d'une certaine prudence. Et les charretiers, attablés au cabaret, branlaient la tête à l'idée de passer trop tardivement dans ce sinistre voisinage. Pour être plus précis, cette terreur émanait surtout d'un point particulier. Le presbytère se trouvait situé entre la grande route et la Dule, avec un pignon de chaque côté. Le derrière regardait la ville de Bellwherry, distante d'un demi-mille à peu près. Devant, un jardin en friche clôturée d'épines occupait le terrain compris entre la rivière et la route. La maison avait deux étages, qui comprenaient chacun deux vastes pièces. Elle ne donnait pas directement sur le jardin, mais sur un sentier surélevé, une sorte de digue aboutissant à la route d'une part et se perdant de l'autre sous les saules et les bouleaux élevés qui bordaient le courant. C'était ce bout de digue qui jouissait d'une si déplorable réputation chez les jeunes paroissiens de Bellwherry. Le ministre s'y promenait souvent après le crépuscule, poussant parfois des plaintes inarticulées dont il entrecoupait ses prières. Et lorsqu'il était absent et la porte du presbytère fermée à clé, les plus hardis d'entre les écoliers s'aventuraient le cœur battant à suivre leur capitaine sur ce chemin légendaire. Qu'une telle atmosphère de terreur environna ainsi un homme de Dieu, d'un caractère et d'une orthodoxie sans tache, était une cause fréquente d'étonnement et un sujet de question pour les rares étrangers que le hasard ou leurs affaires amenaient dans ce pays perdu. Mais, dans la paroisse même, beaucoup ignoraient les singuliers événements qui avaient marqué la première année du ministère de M. Soulis. Et, des mieux informés, les uns étaient réservés par nature, les autres évitaient ce sujet de conversation. À de rares intervalles seulement, l'un des plus anciens prenait courage après son troisième petit verre et racontait l'origine des allures étranges et de la vie solitaire du ministre. Il y a 50 ans de cela, quand Monsieur Soulis est venu pour la première fois à Balouary, c'était encore un jeune homme, un blanc bec, disaient les gens, plein de ce savoir qu'on trouve dans les livres et causant avec emphase. Mais comme il était naturel chez un aussi jeune homme sans la moindre expérience en matière de religion. La jeunesse était grandement séduite par ses talents et son éloquence, mais les vieux, les gens sérieux et graves, hommes et femmes, étaient presque tentés de prier. Et pour ce jeune homme qui s'en faisait accroire, et pour la paroisse, si mal partagée. C'était avant l'époque des modérés, le diantre soit d'eux. Mais les bonnes choses sont comme les mauvaises, les unes et les autres viennent petit à petit, une bouchée à la fois. Et il y avait même alors des gens pour dire que le Seigneur avait abandonné à leur lumière les professeurs de l'université et que ceux qui allaient étudier sous eux auraient beaucoup mieux fait de rester assis dans un trou à tourbe, comme les abstentionnistes lors de la persécution, avec une Bible sous le bras et la prière dans le cœur. En tout cas, il n'y avait pas de doute, Monsieur Soulis était resté trop longtemps au collège. Il se préoccupait d'un tas de choses en dehors des seules nécessaires. Il avait apporté un tas de livres, plus qu'on n'en vit jamais avant lui dans ce presbytère, et ils donnèrent un mal du diable au portefaix. C'était des livres de théologie, bien sûr, ou soi-disant tels, mais les gens sérieux étaient d'avis qu'on n'en avait pas besoin d'autant, alors que la vraie parole de Dieu tiendrait dans la poche. Puis, il restait assis la moitié de la journée et de la nuit, ce qui n'était guère convenable, à écrire, pas moins. Et d'abord, on avait eu peur qu'il ne lût ses sermons, mais ensuite on apprit qu'il écrivait un livre, ce qui n'était sûrement pas approprié à son âge et à son peu d'expérience. En tout cas, il eut le désir de prendre une vieille femme pour tenir son presbytère et préparer ses repas. On lui recommanda une vieille boiteuse qui s'appelait Jeannette McClure. Et il lui fallut se décider. Beaucoup se mirent en garde contre cet avis, car Jeannette était plus que suspecte aux meilleurs gens de Balouary. Longtemps auparavant, elle avait eu un bébé d'un militaire. Elle ne s'était pas approchée de la Sainte Table depuis au moins 30 ans. Et des gamins l'avaient vue qui marmottait toute seule sur le quai Loan, au crépuscule. Temps et lieu fort incongru pour une femme craignant Dieu. Quoi qu'il en soit, c'était le laird lui-même qui avait fait le premier parler de Jeannette au ministre. Et à cette époque, celui-ci aurait fait beaucoup pour complaire au laird. Quand on vint lui raconter que Jeannette s'était fait vouer au diable, il traita la chose de superstition. Et quand on lui cita la Bible et la Sibylle d'Endor, il répliqua que ses temps étaient passés et que le diable avait heureusement beaucoup perdu de son pouvoir. Eh bien, quand on sut dans le village que Jeannette allait entrer comme servante chez le ministre, les gens s'en prirent à lui et à elle, ensemble, et quelques bonnes femmes n'eurent rien de plus pressé que d'aller attendre la boiteuse devant sa porte et de lui rappeler tout ce que l'on savait contre elle. Depuis l'enfant du militaire jusqu'à son aventure avec John Thompson. Elle ne parlait guère d'habitude. Mais lorsqu'elle s'y mettait, elle avait une langue à damer le pion au meunier. Elle monta d'abord sur ses ergots et il n'y eut pas un vieux cancan dans tout Balouary qu'on ne déterra ce jour-là. Et pour une chose qu'on lui disait, elle en répondait deux. À la fin, les bonnes femmes se fâchèrent et, sautant sur elle, lui arrachèrent ses jupes et l'entraînèrent pour la jeter dans la dule en aval du village, afin de voir si elle était sorcière ou non, si elle surnageait ou irait au fond. La garce hurlait à l'entendre de la femme pendue et elle se débattait comme 10. maintes bonnes femmes portèrent les marques de ses griffes durant plusieurs jours. Mais voilà qu'au beau milieu de ce grabuge arrive, pour ses péchés, rien moins que le nouveau ministre. « Femme, dit-il, et il avait une voix imposante, je vous adjure au nom du Seigneur de la laisser aller. » Jeannette courut à lui. Elle était folle de terreur et s'agrippa à lui, le priant pour l'amour du Christ de la sauver des commères. Et celles-ci, de leur côté, racontèrent au révérend tout ce qu'elles savaient, et voire davantage. « Femme, dit-il, est-ce vrai ?
Comme le Seigneur me voit, comme le Seigneur m'a créé, pas un seul mot. À part l'enfant, j'ai été toute ma vie une femme rangée. »
Voulez-vous, dit Monsieur Soulis, au nom de Dieu et devant moi, son très indigne ministre, renoncer aux démons et à ses œuvres ?
Eh bien, il paraît que lorsqu'il lui demanda cela, elle fit une grimace effroyable et qu'on entendit ses dents s'entrechoquer. Mais elle n'avait pas le choix. Elle leva donc la main et renonça aux démons.
Et maintenant, dit Monsieur Soulis aux bonnes femmes, « rentrez chez vous, les unes et les autres, et priez Dieu qu'il vous pardonne. »
Et offrant son bras à Jeannette, bien qu'elle n'eût guère sur elle que sa chemise, il l'emmena à travers le village jusqu'à sa porte comme une noble lady. Mais elle criait et riait que c'en était un scandale. Ce soir-là, beaucoup de gens sérieux restèrent tard à dire leurs prières. Mais le lendemain, une telle panique se répandit dans Balwary que les enfants se cachaient et que même les hommes ne passaient pas le seuil de leur porte. Car Jeannette ou son fantôme, descendit la rue d'un bout à l'autre et elle avait son cou tordu et sa tête toute d'un côté comme celle d'un pendu et sur son visage une grimace de déterré. Peu à peu, on s'y habitua, et même on lui demanda ce qui lui était arrivé. Mais à partir de ce jour, elle cessa de parler comme une chrétienne. Elle se contentait de faire cliquer ses dents comme une paire de ciseaux. Et à partir de ce jour, le nom de Dieu ne passa plus jamais sur ses lèvres. Parfois, elle tâchait de le prononcer, mais sans y parvenir. Les mieux renseignés étaient les moins bavards, et ils ne donnèrent jamais à cet être le nom de Jeannette McClure. Car l'ancienne Jeannette, à les entendre, était à présent au fin fond de l'enfer. Mais il fut impossible de convaincre le ministre. Il prêchait sans cesse sur la cruauté de celle qui avait donné à sa servante une attaque de paralysie. Il réprimait les gamins qui la poursuivaient et il l'avait du reste pris chez lui dès le premier soir et il habitait avec elle sous la femme pendue. Or, le temps passa et les plus légers commencèrent à faire bon marché de cette sombre histoire. Le ministre avait bonne réputation. Il restait tard à écrire. On voyait sa chandelle briller du côté de l'adulte jusque passé minuit. Et il avait l'air satisfait et alerte, comme devant, bien que chacun pût s'apercevoir qu'il dépérissait. Quant à Jeannette, elle venait, elle allait et venait. Si elle ne parlait guère autrefois, il était naturel qu'elle parlât désormais encore moins. Elle ne s'occupait de personne, mais sa mine était si étrange que personne ne se serait compromis avec elle pour toutes les terres de Balwary.
For sinners so
Vers la fin de juillet, il y eut des chaleurs comme on n'en avait jamais vu dans le pays. Un temps lourd, brûlant, sans un souffle. Les troupeaux n'arrivaient plus à monter la colline noire. Les enfants étaient trop las pour jouer. Et avec cela, il faisait orageux. Des coups de vent chaud balayaient les vallées et amenaient des bribes d'averses qui ne rafraîchissaient pas. On croyait toujours que l'orage éclaterait le lendemain, mais le lendemain arrivait, et le surlendemain, et c'était toujours le même temps absurde, accablant les hommes et le bétail. De tous les habitants du pays, aucun ne souffrait comme M. Soulis. Il ne pouvait plus dormir ni manger, disait-il. Et lorsqu'il n'était pas à écrire son sempiternel bouquin, il errait par les routes comme un possédé aux heures où tout le monde était trop heureux de se tenir au frais dans les maisons. Entre la femme pendue et la colline noire, il y avait un bout de terrain enclos par une grille de fer. Il paraît que ce fut jadis le cimetière de Balwéry, consacré par les papistes avant que la vraie lumière brillât sur le royaume. Monsieur Soulis aimait beaucoup cet endroit pour s'y asseoir et méditer ses sermons. Eh bien, un jour, en arrivant à l'extrémité ouest de la colline noire, il vit d'abord 2, puis 3, puis 7 corneilles qui s'élevaient en tournoyant au-dessus de l'ancien cimetière. Elles volaient lourdement et croissaient dans le ciel. Monsieur Soulis comprit que quelque chose d'insolite les avait effrayés. Il n'était pas poltron et il alla droit son chemin. Et que trouva-t-il ? Un homme, ou la semblance d'un homme, assis à l'intérieur sur une tombe. Cet homme était de haute stature et noir comme l'enfer, avec des yeux étranges. Monsieur Soulis avait entendu parler d'hommes noirs bien souvent, mais cet homme noirci avait quelque chose de louche qui le troublait. Malgré la chaleur, il sentit comme un frisson le glacer jusqu'aux moelles. Néanmoins, il parla et dit « Mon ami, êtes-vous un étranger au pays ?» L'homme noir ne répondit pas. Il se leva et s'en alla vers l'autre bout de l'enclos, mais en regardant toujours le ministre. Et le ministre s'arrêta, le regardant aussi. Finalement, l'homme noir sortit du cimetière et prit sa course vers les bois. Alors M. Soulis, sans savoir pourquoi, courut après lui. Mais il était éreinté par sa promenade et par le temps brûlant et malsain. Il eut beau courir, ce fut tout juste s'il entrevit l'homme noir derrière les hêtres, avant d'arriver au pied de la colline. Et là, il l'aperçut encore une fois qui bondissait et galopait le long de la dulle vers le presbytère. Monsieur Soulis était mécontent de voir ce redoutable individu prendre ses libertés avec le presbytère de Balwéry. Il courut plus fort et tout trempé, longea la rivière et remonta la digue. Mais du diable s'il revit l'homme noir. Il s'avança jusqu'à sur la route, personne. Il traversa le jardin, pas d'homme noir. À la fin, et un peu effrayé, comme il n'était que juste, il entra dans la maison et il vit Jeannette McClure avec son cou tordu qui l'accueillait avec joie. Mais en jetant les yeux sur elle, il éprouva le même frisson glacé. « Jeannette, dit-il, avez-vous vu l'homme noir ?»«
L'homme noir ? Dieu garde !
Vous n'êtes pas dans votre bon sens, ministre. Il n'y a pas d'homme noir à Balwéry. » Mais elle ne parlait pas distinctement, rappelez-vous. Elle mâchonnait comme un cheval qui a le mors dans la bouche. « Eh bien, dit-il, s'il n'y a pas d'homme noir à Balwéry, je viens de parler à la accusateur des frères. Et il s'assit, comme en proie à la fièvre, et ses dents claquaient.
« Fille, fille, » dit-elle,
« vous n'avez pas honte, ministre ?»
Et elle lui donna à boire une goutte de l'eau de vie qu'elle tenait en réserve. Ensuite, Monsieur Souli s'alla dans son cabinet retrouver ses bouquins. C'est une pièce allongée, sombre, d'un froid mortel en hiver et qui n'est pas bien sèche, même au cœur de l'été, car le presbytère est voisin de la rivière. Il s'assit et réfléchit à tout ce qui s'était passé depuis son arrivée à Balwéry. Il se rappela son pays, le temps de son enfance, alors qu'il allait jouer sur la bruyère, et cet homme noir aussi lui revenait à l'esprit, comme le refrain d'une chanson. Et plus il songeait, plus il songeait à l'homme noir. Il voulut prier, mais les paroles ne lui venaient pas. Il essaya de travailler à son livre, mais il ne le put pas non plus. Par moments, il se figurait que l'homme noir était à son côté et la sueur l'inondait, froide comme eau de pluie. À d'autres moments, il se rappelait son enfance chrétienne, et ne pensait à rien d'autre. Pour finir, il se mit à la fenêtre et considéra la dune. Les arbres sont très touffus et l'eau est profonde et noire devant le presbytère. Et il vit Jeannette, les jupes relevées, qui lessivait du linge. Elle tournait le dos au ministre et lui, de son côté, ne faisait pas attention à ce qu'il voyait. Mais elle fit volte-face et lui montra son visage. Monsieur Soulis ressentit le même frisson glacé que la veille et il comprit ce que disaient les gens, que la vraie Jeannette était morte depuis longtemps et que celle-ci n'était qu'un fantôme revêtu de sa froide argile. Il se recula un peu et l'examina attentivement. Elle clopinait autour de sa lessive en ronronnant tout bas, mais Dieu nous éclaire, son visage était bien singulier. Parfois elle chantait à voix haute, mais nul vivant, homme ou femme, n'aurait pu dire quelles paroles elle chantait. Et parfois, elle regardait à côté d'elle, mais il n'y avait là rien qu'elle pût regarder. Il sentit sa chair se recroqueviller sur ses os, ce qui était un avertissement du ciel. Mais M. Soulis se reprocha de mal penser d'une pauvre infirme qui n'avait d'autre ami que lui, et il dit une petite prière pour lui et pour elle, et but un peu d'eau froide, car il n'avait pas le cœur à manger. Il s'alla coucher dans le crépuscule. C'est une nuit qu'on n'a pas oubliée à Balwéry, la nuit du 17 août 1712. Il avait fait chaud auparavant, comme je l'ai dit, mais cette nuit-là, il fit plus chaud que jamais. Le soleil s'était couché dans des nuages d'un aspect insolite. Il faisait noir comme dans un four. Pas une étoile, pas un souffle d'air, on ne voyait pas le bout de son nez et même les vieux, tout haletants, rejetaient leur couverture. Avec toutes ces préoccupations, il y avait peu de chance pour que M. Soulis pût dormir. Il resta donc à se retourner dans son lit, les bons draps frais le brûlaient jusqu'aux os. Par instants, il s'endormait, puis il se réveillait. Parfois, il écoutait la nuit, et parfois un chien hurlant à la mort au loin, ou bien il croyait entendre des remuements dans son grenier, ou bien il voyait passer des ombres dans la chambre. Il se sentait, il se jugeait malade, et il était malade en effet, et d'une façon qu'il ne soupçonnait guère. À la fin, il se fit une éclaircie dans son esprit, et s'asseyant au bord du lit dans l'obscurité il repensa une fois de plus à l'homme noir et à Jeannette. Il n'aurait su bien dire comment. Peut-être fût-ce parce qu'il avait froid aux pieds. Mais il entrevit soudain une relation entre les deux et il comprit que l'un ou l'autre, sinon tous les deux, étaient des fantômes. Au même moment, dans la chambre de Jeannette, qui était voisine de la sienne, il se fit un remue-ménage, comme si des gens se battaient, puis un grand choc. Et puis, un coup de vent assaillit les quatre coins de la maison, et puis, tout fut à nouveau muet, comme la tombe. Monsieur Soulis ne craignait ni homme, ni diable. Il bâtit le briquet, alluma une chandelle, et fut en trois pas à la porte de Jeannette. La porte était ouverte. Il la poussa et entra. La chambre était aussi vaste que celle du ministre et remplie de vieux meubles cossus, car il n'avait d'autre place où les mettre. Il y avait un lit à baldaquin de tapisserie et un beau bahut de chêne rempli de livres de théologie du ministre, qui les avait mis là, à l'abri de l'humidité. Quelques effets de Jeannette traînaient çà et là sur le plancher, mais de Jeannette, point. Monsieur Soulis s'avança, deux gens l'auraient suivi, regarda tout autour de lui et prêta l'oreille. Mais on n'entendait aucun bruit, ni dans le presbytère, ni dans la paroisse de Balouéry, et on ne voyait rien que les ombres mouvantes projetées par la chandelle. Tout à coup, le cœur du ministre battit violemment, puis s'arrêta. Et un souffle glacé passa sur sa face. Quel affreux spectacle s'offrait au regard de l'infortuné. Il avait devant lui Jeannette, pendue à un clou contre le vieux bahut de chêne. Sa tête retombait sur son épaule. Ses yeux faisaient saillie, la langue lui sortait de la bouche et ses talons étaient à deux pieds au-dessus du plancher. « Dieu nous pardonne tous », songea Monsieur Soulis. « La pauvre Jeannette est morte. » Il fit un pas vers le cadavre et alors son cœur lui martela les côtes. Car par un tour de force qui n'appartient pas à l'homme de juger, elle était pendue à un simple clou, par un simple fil à raccommoder les bas. C'est une terrible chose que de se trouver tout seul de nuit au milieu de tels prodiges des ténèbres. Mais M. Soulis était fort devant le Seigneur. Il quitta la chambre, ferma la porte à double tour derrière lui et, marche à marche, il descendit l'escalier. Il ne pouvait prier ni réfléchir. Il ruisselait d'une sueur froide et il n'entendait rien que les battements précipités de son cœur. Il était resté là peut-être une heure ou bien deux, sans le savoir, lorsque soudain il entendit un bruit singulier à l'étage. Un pas arpentait la chambre où le cadavre était pendu. Puis la porte, qu'il se rappelait fort bien avoir fermée à clé, s'ouvrit et le pas s'avança sur le palier. Et il crut voir le cadavre se pencher sur la rampe pour le regarder du haut d'en bas de la cage de l'escalier. Il reprit la chandelle, car il n'aurait osé se passer de lumière, et le plus doucement possible, sortit du presbytère et s'en alla jusqu'à l'extrémité de la digue. Il faisait noir comme un four. La flamme de la chandelle, lorsqu'il la déposa par terre, montait aussi droite que dans une chambre. Rien ne remuait, sauf les eaux, murmurant et bondissant dans le lit de la dulle. Et là-bas, ce pas suspect et clopinant qui descendait l'escalier à l'intérieur du presbytère. Il le connaissait bien, ce pas, c'était celui de Jeannette. À mesure qu'ils se rapprochaient, une marche après l'autre, le froid pénétrait plus profondément dans son corps. Il recommanda son âme à son Créateur. « Oh mon Dieu, dit-il, donne-moi cette nuit la force de combattre les puissances du mal. » Cependant, le pas enfila le couloir menant à la porte. Monsieur Soulis entendit une main tâtonner tout du long, comme si de l'effroyable créature cherchait son chemin. Les branches s'agitèrent et s'entrechoquèrent. Un soupir prolongé passa sur les hauteurs. La flamme de la chandelle se rabattit, et Monsieur Soulis eut devant lui, sur le seuil du presbytère, le corps de Jeannette la Revenante, avec sa robe de camelot et sa mante noire, la tête sur l'épaule et le rictus sur son visage renversé. Vivante, aurait-on dit. Morte, savait bien Monsieur Soulis. C'est une chose étrange comme l'âme de l'homme est chevillée à son corps périssable, car le ministre put voir cela sans que son cœur éclatât. Elle s'arrêta peu de temps sur le seuil. Elle se remit en marche et s'approcha de Monsieur Soulis. Celui-ci avait rassemblé toutes les énergies de son corps, toute la vigueur de son esprit dans ses yeux. On eût dit qu'elle allait parler, mais les mots lui firent défaut et elle fit un signe de la main gauche. Il survint un coup de vent, comme un chat qui feule, et la chandelle s'éteignit. Les branches crièrent comme des gens, et Monsieur Soulis comprit que, dût-il vivre ou mourir, le dénouement arrivait.
« Sorcière, enchanteuse, démon !»
s'écria-t-il.
« Je vous adjure, par la puissance divine, de vous en aller. Si vous êtes défunte à la tombe, si vous êtes damnée, en enfer !»
Et à ce moment-là, le doigt même de Dieu sortit des cieux et frappa l'horreur sur place. Le cadavre maudit de la vieille sorcière morte, depuis si longtemps tenu loin de la tombe et manœuvré par les diables, s'aplatit comme un paquet d'amadou et se réduisit en cendres sur le sol. Le tonnerre éclata, à coups redoublés, puis une pluie torrentielle. Et Monsieur Soulis, passant par une brèche de la haie du jardin, se mit à courir à toutes jambes vers le village. Le matin suivant, John Christie vit l'homme noir passer le grand cairn comme sonnait 6 heures. Avant 8 heures, il passa devant le cabaret de Knockdo et, peu après, Sandy McLellan le vit sur la bruyère qui descendait de Kilmacerly. Il n'est guère douteux que ce fut lui qui demeura si longtemps dans le corps de Jeannette. Mais il l'avait enfin quitté. Et depuis, le diable ne nous a plus tourmentés à Balwery. Mais ce fut une cruelle épreuve pour le ministre. De longs jours, il garda le lit, en proie au délire. Et dorénavant, il est resté tel que vous l'avez vu.